sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, c'est Frédéric Gournet, auteur de Métaphysique du rock, qui va nous présenter notre invité du jour. À vous, monsieur Gournet.
Merci, Yves. Oui, aujourd'hui, nous recevons Esther Teilhard. Esther Teilhard, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Vous venez de sortir un livre chez Pauvert, hein, l'éditeur de Sade, entre autres, qui s'intitule Carne. Alors, avant d'en venir au livre, avant de parler de son contenu, de votre écriture, est-ce que vous vous rappelez votre premier choc esthétique, vos premières fortes émotions littéraires qui vous a marqué ?
Je me rappelle la première fois que j'ai été totalement transcendée par un roman, et c'était Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Je me rappelle du poème du Grand Inquisiteur comme le passage littéraire le plus étrange, le plus bizarre, le plus poisseux et le plus beau que j'ai jamais lu de ma vie.
Donc ça, c'est votre premier choc.
C'est mon premier choc, voilà. Oui.
Et le texte ou le livre qui vous a donné envie d'écrire ?
Je pense que c'est Adaou l'ardeur de Nabokov, qui est un texte qui m'a plongée dans un état de vertige aussi, surtout par rapport à la très forte présence des couleurs, des lumières, des odeurs, quelque chose qui est très important chez Nabokov. Mmh. C'était un homme qui avait un trouble de synesthésie. Il inversait, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Tout à fait.
Oui, voilà.
Il confondait les sons, les couleurs, les odeurs,
ouais. Et ça se transforme en un espèce d'énorme bordel dans sa littérature, un bordel sensoriel sublime. Donc,
c'est marrant parce que cet idéal, ça a été un idéal poétique, notamment chez Rimbaud, même chez Baudelaire. Mm. Et chez lui, c'était une pathologie.
Oui.
Mais alors, c'est marrant de voir que lui, il l'avait naturellement.
Oui, 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 oui. Mais Nabokov voulait être peintre. Et à défaut, il est devenu écrivain. C'est plutôt un bon défaut. Mais...
Alors, votre roman s'appelle Carne. Il est paru chez Pauvert. Sur la couverture, il n'y a rien indiqué. On ne sait pas si c'est un récit, un roman, une autobiographie, une autofiction. Est-ce que c'est à dessein ou ça n'a pas d'importance, finalement ?
Ça n'a pas vraiment d'importance. Le roman est construit de manière assez étrange, d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Pas vraiment de narration. Donc que ce soit de la fiction, de l'autofiction ou pas, je vous avoue que c'est pas une question qui m'a...
C'est au lecteur de décider ?
C'est au lecteur de décider.
Ouais.
Oui.
D'accord. Alors, vous avez commencé par les Beaux-Arts de Cergy, hein,
oui.
Avec Jean-Luc Vernat. tatoué jusqu'au visage, c'est comme si une sèche lui avait éjaculé sur la gueule.
Tout à fait.
Donc ça, c'est pour donner un peu le ton de votre style et de votre approche de la littérature. Mmh. Alors, vous découvrez un milieu qui change de Marseille, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, quoique. Un endroit où la norme, c'est de vouloir être absolument original à tout prix.
Mm.
Donc, c'est ça que vous découvrez. C'est un peu un choc ou vous y attendez quand vous êtes arrivé à...
Ah, c'est un choc.
Ouais.
C'est un choc, en tout cas pour la narratrice qui a grandi au milieu de ces gagoles marseillaises, de cette ville qu'elle adore et qu'elle déteste. Parce que vous savez ce qu'on dit quand on grandit à Marseille, on dit que ça pègue à la peau.
Ça pègue,
c'est ça colle.
Oui.
C'est difficile de se détacher de sa ville, c'est difficile d'en partir. C'est comme une énorme mer qui nous retiendrait. Et elle arrive aux Beaux-Arts et elle tombe sur un univers qui lui est en tout point étranger, où en effet on cultive l'originalité, la figure du marginal, du punk. Et ça l'étonne parce qu'elle ne connaît pas du tout ça.
En même temps, c'est ce qu'on attend d'un artiste, c'est d'être original. Parce
que
s'il ne l'est pas,
c'est
un copiste ou c'est un suiveur ou un disciple.
C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a que des artistes aux Beaux-Arts ? C'est la question.
Alors, les profs sont rarement là, écrit la narratrice. Hein. Mm. C'est une fois sur 100 qu'il vient, Jean-Luc Vernat, à peu près.
Oui, il n'est pas souvent présent, en effet.
Puis il vient, il est sur son téléphone et puis il se barre avant la fin.
Oh, quand il vient, il vient. Hein. Il donne des bons cours, et des bons conseils. Mais les profs ne sont pas souvent là. Les élèves non plus, d'ailleurs.
D'accord.
Il y a plus de poissons d'argent que d'élèves.
Donc, il faut savoir que ces profs qui enseignent aux Beaux-Arts, pas seulement à Cergy, mais même qui enseignent en ce moment, sont des héritiers de la déconstruction, comme on dit, des héritiers de la French Theory, autrement dit de Foucault, Derrida, Deleuze. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs étudiants sont effectivement déconstruits, voire détruits. Donc, ça change de sexe, de partenaire, de drogue, d'un jour à l'autre.
Oui. Oui, ça joue au saute-mouton assez rapidement avec les autres et avec soi-même. C'est difficile de tenir la cadence, quoi. On arrive dans une pièce et puis on revient 5 minutes après. Les identités sont nouvelles, les tenues sont changées. Oui, c'est le rythme est à la fois très rapide et très lent, parce qu'il y a une grande errance aussi dans cette école. Ça traîne beaucoup la patte.
Vous écrivez, tout le monde a l'air d'être parti chercher quelque chose dans la cuisine, mais d'avoir oublié quoi.
Oui, c'est vrai.
C'est très parlant comme image.
C'est vrai.
Teint blanc, idée noire. Les filles parlent fort, les mecs la ferment.
Ouais. Les filles sont des carnes, hein, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une carne. Une carne, c'est une femme qui gueule, qui parle en vomissant, qui en a un peu rien à foutre. Les filles aux Beaux-Arts sont des carnes. Elles sont carnassières, c'est certain.
Et vous écrivez aussi qu'elles parlent fort de sexe, mais avec des mots faibles. Je ne sais pas si c'est l'exacte formulation.
Oui, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on parle plus fort que... Enfin, c'est plus le ton de la voix qui compte que le propos. Mm-hmm. Que le propos, on va dire.
Alors, c'est un monde renversé, hein, on l'a dit, où la norme, c'est d'avoir l'air original et où rester naturel, finalement, s'avère exceptionnel. C'est presque punk de s'accrocher à son genre.
Bah, c'est vrai, si on est bien dans son genre, bien dans son identité, on détonne. Si on n'a pas remis en question 100 fois son genre, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on est peut-être un peu trop construit.
D'accord. Alors, les genres sont troublés, ok, mais quand même, les hiérarchies, les castes avec leur rapport de domination restent. Ça aurait été un peu trop simple de changer de sexe et ça nous permettait de sortir de la condition humaine.
Évidemment. C'est jamais simple. Oui, en fait, la violence persiste. C'est ce qui marque la narratrice. Elle pensait arriver dans un monde très ouvert, un monde assez utopiste, hein, parce que ça ressemble à une utopie, une sorte d'île aux enfants où tout le monde est très libre et tout le monde pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, mais en fait, pas du tout. La violence est omniprésente, les rapports de domination sont toujours très, très présents. C'est une violence qui est plus discrète, qui est à bas bruit, qui est plus masquée, peut-être plus dangereuse aussi que celle de Marseille, qui est ouverte et visible.
Mmh. Oui, c'est plus insidieux parce qu'on ne sait pas toujours comment y répondre tout de suite.
Oui.
Et puis, parfois, la douleur est différée, c'est-à-dire qu'on ne comprend qu'après la violence qu'on a subie.
Oui.
Donc, la narratrice arrive dans cet univers bouleversé. Il y a deux personnages qui la marquent et qui la séduisent, hein, qui sont Yesta, une fille de l'Est.
Estia.
Une fille de l'Est et Emédé. Donc, alors, c'est une Guyanaise, mais qui a gardé encore sa queue, qui est en phase de transition.
Oui.
Donc, c'est quoi les différences et les points communs entre ces deux personnages?
C'est une bonne question. Leur point commun, c'est qu'elles ont une apparence complètement dingue, quoi. On les remarque, on voit qu'elles. Estia, c'est une bimbo slave avec un nez phallique, des yeux en forme de sein, une chevelure blonde polaire, une gueule complètement dingue. D'actrice porno, avec un air un peu triste. Il y a quelque chose d'un peu triste avec ce personnage. Et Médée, c'est une transe sublime, avec des énormes seins en plastique, avec des mini-jupes et des bas en résille. Donc on remarque qu'elle, on voit qu'elle, et quand on se balade avec elle dans la rue, on passe pas inaperçu, c'est certain. Leur différence, c'est que je pense que Médée, donc cette femme trans, elle est bien plus joyeuse, bien plus vivante que Estia, qui est un personnage un peu morbide.
Mm-hmm.
Elle est bizarre, cette Estia. C'est une fille un peu détraquée, seule dans son coin, qui parle pas, qui fait la gueule et qui passe son temps à parler de choses bizarres ou à parler de cul.
Et pourquoi elle attire autant l'héroïne?
Elle l'attire parce que c'est tout ce qu'elle n'est pas. C'est tout ce qu'elle n'est pas, c'est une espèce de figure de luxure et en même temps de tristesse. Elle a l'air hyper à l'aise avec son corps, sa sexualité. Elle a ce côté un peu sauvage, une sorte d'ovni. On ne sait pas trop comment l'appréhender, comment la regarder. Et la narratrice, elle...
Bon, elle a 18 ans, il faut préciser qu'elle est très jeune.
Elle
arrive de Marseille à 18 ans.
Elle est jeune, mais elle est beaucoup plus coincée. Hein. C'est une espèce de grande godiche qui arrive à Cergy et qui... qui ne sait pas ce que c'est que ce monde-là, et elle tombe sur Hestia, cette créature.
Hestia, en fait, elle a des avis assez tranchés et définitifs sur les hommes. Elle a l'air de bien connaître les hommes.
Ouais.
Elle a plusieurs théories sur eux.
Ouais, elle a plein de théories.
Ouais.
Des théories souvent assez stupides, mais des théories très arrêtées sur
des
les
fois,
choses.
Des fois, ça tape juste, mais oui, des fois, c'est farfelu.
Ouais.
Alors, il faut reconnaître que vous possédez un vrai art du portrait. Hein. Alors, ma question, c'était de savoir si ça venait d'où. Est-ce que c'est les heures à la plage, les heures en terrasse de café? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est travaillé, ou les deux?
Bah, ça vient d'une... Moi, j'ai fait les Beaux-Arts parce que je voulais vraiment être peintre. Hein. C'était ma première passion. C'était la peinture et la caricature, notamment. Mais j'étais très, très mauvaise. C'était une catastrophe. Donc, j'ai commencé à écrire à défaut de pouvoir dessiner correctement. Et puis, quand on... Ah oui, j'ai passé beaucoup de temps à Marseille aussi à regarder les gens, à regarder donc, les cagoles, notamment sur la plage, qui ont mis longtemps à m'accepter, mais qui maintenant me tolèrent, et qui sont des caricatures vivantes. Hein. La cagole, c'est un peu celle qui se caricature avant qu'on le fasse pour elle. Celle qui a compris que quoi qu'il arrive, on allait lui faire un joli portrait, donc elle avait intérêt à le faire elle-même et à y aller à fond. Quoi.
Et c'est une manière de garder le pouvoir, en fait, parce qu'on reste inatteignable.
Oui. Bien sûr, mais la cagole...
Si on se caricature soi-même, personne ne peut plus nous atteindre.
Bien sûr, et la cagole, c'est une énorme domina. Hein. C'est elle, qui choisit les règles, c'est elle qui gère le jeu.
Alors justement, j'en viens à cette question qui découle naturellement. Donc c'est cru, c'est sans pitié, ou presque. C'est cruel. Alors ma question, c'est parodique, satirique ou réaliste?
Un peu des deux. Je pense que ça... En tout cas, j'ai essayé de... Je sais que j'ai travaillé comme ça. C'est un roman faussement obscène. Donc le langage est très cru. Il y a bite et chatte à chaque page, quoi. Par contre, je pense que c'est assez pudique, en réalité.
Mais sur les sentiments, c'est très réservé.
Sur les sentiments, c'est très, très retenu. C'est presque un peu chaste, parfois. Après, j'avais envie de parler de la carne. Il y a cette phrase d'Artaud que j'adore qui dit « Là où ça sent la merde, ça sent l'être ». J'avais envie de parler de merde, j'avais envie de parler de personne. Donc voilà, mais oui, c'est un style coloré, un style un peu...
Oui, c'est une écriture aiguisée, tranchante, blessante. Donc c'est rythmé entre aphorisme et punchline. Est-ce que le rap, le rock, la musique, c'est une influence pour vous dans votre écriture?
Oui. J'adore la musique, j'adore le rap marseillais. Hein, j'ai grandi à Marseille, et quand on grandit à Marseille, on grandit forcément avec le rap, si on ouvre un minimum l'oreille. Et puis j'aime les aphorismes, mais c'est comme la caricature, j'aime les phrases qui filent droit, quoi, vont droit à leur point.
D'accord. Et ben, puisqu'on parle de musique, on va écouter le premier morceau que vous avez choisi comme interlude, comme pause musicale. Ça s'appelle Noir Boy George, et le titre est Enfonce-toi dans la ville. As-tu déjà remarqué
que les âmes en fer s'attirent dans les eaux désaffectées, les eaux froides de la ville. Quand les âmes en fer se rejoignent, ne les suis surtout pas, car si tu crois une âme en fer, et que toi tu es une âme en fer, surtout ne te retourne pas. Elles sont pires que les sirènes, et au bout de cette rue noire il y aura une rue encore plus noire. Alors enfonce-toi dans la ville, oh, enfonce-toi avec moi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de notre invitée Esther Teilhard qui vient de sortir un roman qui s'appelle Carne chez Pauvert. Donc Esther, vous avez choisi ce morceau de Noir Boy George, décidément j'arrivais pas à le dire. C'est le Boy George qui me dérange, je pense. Ouais. Et qui s'appelle Enfonce-toi dans la ville. Pourquoi ce morceau ?
Alors, ça n'a rien de marseillais, c'est une figure underground de l'Est, une figure complètement démente des années 2000, qui n'est pas très connue, mais que j'aime beaucoup, et j'aime cette musique parce que c'est sur la ville, sur le vortex de la ville, c'est « Enfonce-toi dans la ville ». Et aussi différente soit Marseille que Metz, il y a quelque chose de l'ordre du trou aussi à Marseille, on peut vite se retrouver, c'est ce qu'on disait, empégué dans la ville, enfoncé dans la ville. Et j'aime cette chanson.
Parce qu'effectivement, il faut le dire, dans votre roman, il y a Marseille et il y a Paris. Mmh. Bon, Sergi un peu, mais beaucoup Paris, parce que l'héroïne habite Paris lors de ses études. Et la narratrice passe son temps à comparer les deux, en fait, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de les comparer. Et ces villes deviennent quasiment des personnages.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ces villes deviennent des personnages. Alors, on dit de Marseille que c'est une femme, souvent la caricature en femme, mais la narratrice se dit que Marseille est un petit mec, un petit latin teigneux, un peu énervé parce que...
Gominé, moulé de partout.
Voilà, moulé de partout, explosif dans ses tenues trop moulantes et en même temps, épris de désir, mais empêché. Donc, c'est un homme en colère. Mmh. Et Paris est une femme assez cynique, assez dure, assez froide.
Oui, c'est donc ces deux personnages qui sont vis-à-vis en permanence du début jusqu'à la fin. Alors, il y a surtout les cagoles, hein, on a déjà abordé le sujet. Vous dites éclaté au sol, mais orthodoxe de la laideur. Alors, je ne sais pas si la cagole est une icône féministe, comme le déclare le trentenaire qui s'installe à Marseille. Les cagoles sont des punks.
Ouais. Il y a une sorte d'attrait incontestable pour Marseille depuis, on va dire grossièrement, le confinement. Et la cagole est brandie comme une figure de libération, une figure de féminisme. Moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça, parce que la cagole, aussi carnassière soit-elle, aussi dominatrice soit-elle, c'est vrai qu'elle écrase complètement... elle écrase l'homme sur la plage. La cagole est aussi, on pourrait dire, sujette à tout ce qu'il y a de pire dans les dictates du physique de la femme. Elle correspond à tout ce qu'on attend d'une femme en, en, en trop, quoi. Mm-hmm. Dans tellement trop que ça en devient, comme on dit, dégoûtant.
Alors, est-ce qu'elles sont si libres que ça? Parce qu'on a l'impression que des fois, elles sont parfois dominées à la maison, donc du coup, plus libres à la plage ou dans la rue. C'est-à-dire qu'elles connaissent leur domaine de liberté et elles le défendent d'autant plus farouchement.
Parce qu'elles
ne sont pas totalement libres. Il ne faut pas s'aveugler.
C'est vrai. Elles ne sont pas totalement libres, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans l'écriture de ce roman, c'est de traiter les libertés en fonction des espaces. C'est-à-dire que ces femmes-là, sur ce bout de plage, vont être infiniment libres et enfermées chez elles, elles ne le seront plus. Mmh. Et c'est fascinant. Moi, ça me fascine en tout cas, les espaces qui permettent une liberté. L'espace d'un temps, on pourra être extrêmement libre dans une journée, puis retourner chez soi et devenir... enfermé entre ces murs, enfin devenir prisonnier, je sais pas. Mais j'aime cette liberté spatio-temporelle de la cagole.
Mmh. Mmh. Et l'héroïne donc s'incline devant elle.
Elle s'incline.
Elle est presque en adoration.
Elle est en adoration parce que les cagoles lui résistent. Et l'héroïne, la narratrice, a quelque chose d'un peu masochiste. Hein. Elle va tout le temps là où elle peut se faire... martyrisée, elle y va tête baissée.
Oui, il faut préciser, en fait, les endroits à la plage sont très marqués. On ne peut pas se mettre n'importe où avec sa serviette.
Ah, on ne peut pas se mettre n'importe où, voilà. Attention. C'est donc un espace, comme un espace de racolage millimétré. Mm-hmm. On ne peut pas aller n'importe où. Chaque place est attribuée et celui qui ose, mon Dieu, celui qui ose aller sur le territoire, sur la place d'une cagole, va se prendre un pain dans la gueule, ça c'est sûr.
Alors, les femmes sont très présentes dans votre roman, hein, dans ce livre. Hein. Il y a l'héroïne, Estia, les cagoles... Les mères sont étrangement absents, les pères.
Ouais.
L'héroïne n'a pas de père, il n'est même jamais évoqué.
Non, il n'y a pas de père.
Il n'y a pas de père.
Y a toute une... On parle beaucoup des pères défaillants, des pères faillis. Moi, j'avais envie qu'il ne soit carrément pas là, quoi, que ce ne soit même pas un sujet. Il n'y a pas de père, il n'y a que des mères bizarres, des mères inquiétantes, des mères qui ont élevé leurs filles de manière étrange, des filles qui sont complètement terrorisées par la figure, le fantôme de leur mère. Ouais.
Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la mère du personnage principal, c'est elle qui représente la loi.
Oui.
Parce qu'elle est procureure de la République.
Oui.
Et elle travaille à Marseille. Hein. Ouais. Et c'est une mère qui n'est pas très loin de la maltraitance quand même. Hein. Elle inflige des douches glacées à son enfant. Elle passe son tour à lui mettre les mains sur les fesses. Elle laisse traîner des dossiers de viol avec les photos, les procès-verbaux, même le sol, pour que sa fille à 11 ans les voit. Donc c'est une figure ambivalente à la fois celle qui détient la loi et celle qui maltraite.
C'est une sorte de corbeau, un corbeau en robe noire parce que donc elle est procureure et c'est une mère étrange. Hein. C'est une mère très étrange qui a un côté très maltraitant, c'est vrai, avec sa fille et en même temps elle lui apprend à mettre un pied devant l'autre, quoi, à tenir les rênes et à y aller. C'est toute l'ambivalence aussi de la figure de la mère violente qui peut à la fois terrifier sa fille et la rendre elle-même bizarre, elle-même un peu décalée, et en même temps qui peut lui apprendre à supporter l'existence, à se défendre et à affronter les autres. Parce que la narratrice, finalement, même si elle va se faire doucement violentée par les personnages avec qui elle va rentrer en communication, elle y va, et puis elle s'en sort parce qu'elle a été éduquée comme ça.
Ouais, elle n'a pas froid aux yeux.
Elle n'a pas froid aux yeux,
ouais,
non.
Elle n'a pas froid aux yeux. Ouais. Donc, ben, la figure de la mère est troublée, le père est absent, en tout cas effacé. Il n'y a plus d'identité symbolique, hein, les gens se troublent à Cergy comme à Marseille. Hein, parce qu'à Marseille, les cagoles sont bagarreuses, hein, castagneuses. Vous parlez d'une anecdote de femme enceinte, col dilaté à 8 ou à 10, et qui se tape sur le parking de la clinique.
Anecdote vraie, assistée, j'ai totalement vu cette scène.
Ça ne peut pas être inventé.
Oui, c'était très drôle, c'était à la sortie d'un... d'un cinéma le dimanche soir à Marseille. Il n'y avait absolument personne dans la rue. C'était assez sinistre. Et il y avait ces deux énormes femmes enceintes, mais vraiment très, très enceintes, qui se donnaient des coups de ventre en se gueulant dessus. Et c'était assez incroyable. Exceptionnel.
Donc, il y a ces femmes bagarreuses. Et puis, il y a aussi les latins aux beaux yeux humides, hein, les serveurs de pizzeria qui rivalisent avec les plus belles serveuses de bar.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est la figure de l'homme latin que j'adore parce qu'on fait croire de l'homme latin que c'est un petit libidineux. Mais en fait, il est plus subtil que ça. Par exemple, à Marseille, les hommes se touchent, ils s'enlacent, ils se font des énormes poutous, ils se caressent dans tous les sens. Il n'y a pas cette espèce de gêne physique, de pudeur. Finalement, ils sont aussi, presque aussi tactiles avec les femmes qu'avec les hommes. Je les aime, ces hommes latins.
Oui, ouais, vous rendez un bel hommage d'ailleurs. Et du coup, ça fait une ambivalence qui n'est pas celle qu'on attendait. C'est-à-dire donc des femmes viriles qui savent se battre, et puis des hommes très tendres et très émotionnels, c'est-à-dire qui savent pleurer en fait, qui ne font pas le coup. Moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, on m'a élevé comme un homme, non.
Ça n'existe pas. Les hommes chialent, mais chialent tout le temps. C'est les femmes qui sont dures à cuire. Mmh. Ouais.
Alors quand même... Ce qui parfois interroge dans le roman, c'est qu'on a l'impression que le regard de l'autre domine. Hein. Il prévaut dans tous les rapports, l'apparence avec ses artifices règne.
Ouais.
Comme si on avait remplacé un peu, comme si on avait remplacé Dieu par la société, la loi par la norme, et la guerre des sexes par le combat permanent des genres. Mmh. Est-ce qu'on a vraiment gagné à ça ?
Vaste question. Bah, on parlait de Dostoïevski et des frères Karamazov. Si on en reprend la théorie de notre ami Dostoïevski, Dieu est mort et on est là comme des cons, la queue entre les jambes. C'est un peu ce qui se passe, dans le roman, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas vraiment d'idéaux, ils n'ont pas vraiment non plus de notion de plaisir, parce que c'est ça qui est assez triste et amer dans le roman, c'est qu'on parle que de cul, on parle que de désir, mais on parle jamais de plaisir, de...
Ni plaisir, ni sentiment.
Oui, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sentiment. C'est très âpre. Mmh. Mmh.
Donc, donc on a remplacé Dieu par la société. C'est-à-dire que maintenant, c'est la société qui nous juge en permanence. Et donc, on est sans cesse soit à accepter les normes, soit à les discuter. Et dans un combat permanent les uns contre les autres. Vous avez choisi en deuxième morceau qu'on va écouter, Venus in First du Velvet Underground. Et après, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Kiss the boot of Shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman en compagnie de Esther Teilhard, notre invitée, pour son roman Karn. On vient d'écouter Venus in First du Velvet Underground. Alors Esther, pourquoi ce morceau ?
Ah bah déjà parce que c'est la grâce absolue de Lou Reed. Je pense qu'on ne peut pas faire plus gracieux et parce que Venus à la fourrure, c'est une figure sadomaso. Assez exceptionnel et qu'on parlait de masochisme de la narratrice. Donc ça fait sens.
J'y avais vu autre chose, parce qu'en fait, effectivement, ça parle de livre de Sacha Mazoch.
Ouais.
Donc c'est comment dire, un livre qui évoque la réversibilité des identités sexuelles dans un jeu, par contre, absolument privé, qui n'est pas social ni politique.
Ouais.
Parce que c'est, comme dirait Éric Marty dans le sexe des modernes, quand il parle de Sacha Mazoch, il dit voilà, c'est un switch permanent, incessant des genres, des organes et des orifices. Donc ça colle assez bien avec votre roman. Alors, est-ce que vous êtes demandé à un moment à quoi ça correspondait ce désir de changer de secte ou de brouiller les genres ou de sortir des catégories? Est-ce qu'au fond, c'est pas un vieux rêve très ancien, très antique de l'hermaphrodite?
Peut-être, oui. Peut-être, mais... J'aimerais y voir ça, j'aimerais y voir quelque chose d'ancestral et de... Enfin, surtout dans le milieu des beaux-arts, même de lié à l'esthétisme, à la peinture. Mmh. Je pense qu'en réalité, c'est aussi une question très, très, très actuelle liée à notre époque et au fait qu'on se regarde quand même aussi beaucoup ce qu'on a entre les jambes et qu'on se regarde beaucoup dans la glace et qu'on essaye sans cesse de s'affirmer, de se revendiquer, de s'identifier. Je pense que c'est avant tout ça, avant d'y voir quelque chose de plus...
Mais les deux peuvent se rejoindre. Enfin, moi, j'y vois une correspondance dans le sens où l'hermaphrodite se suffit à lui-même puisqu'il incarne les deux sexes. Il peut se féconder lui-même, il n'a pas besoin de l'autre.
C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, il a intégré l'altérité, la différence. Et donc, les revendications aussi de genre en ce moment, ça peut être aussi ça, de nier la différence sexuelle. Mmh. Ou de la sublimer, mais toujours pour en rester dans la maîtrise. Mmh. Est-ce que finalement l'époque et surtout le libéralisme, le néolibéralisme, n'est pas ravi de ça, d'envoyer ce message, de dire tu peux être ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu veux, il y a les applis pour ça, il y a les sites de rencontres pour ça, et puis tu peux décider absolument ce que tu veux être à condition de payer. Ou en tout cas, on est passé peut-être de aimez-vous les uns les autres à consommez-vous les uns les autres.
Oui. Bien sûr, et ça, enfin, je suis d'accord avec vous. C'est un pur produit du capitalisme. Et c'est aussi c'est ce qui est montré dans le roman. Mais ça crée des individus d'une solitude monstre, d'une solitude crasse, des figures d'anomie, des figures seules dans leurs ateliers avec certes le genre qu'ils décident, l'apparence qu'ils décident, les mots qu'ils décident, mais bien loin du plaisir et bien loin d'une forme de joie importante pour vivre, je
pense. Et même avec un rapport troublé à la beauté, parce que finalement, le rapport à la beauté, c'est soit, et c'est ce qui arrive à la ruine, hein, c'est soit la posséder, soit la détruire.
Ouais.
Mais jamais lui rendre hommage, ou jamais lui rendre grâce.
Bien sûr, oui. Oui, c'est ça.
Estia incarne ça, en fait. L'héroïne a sans cesse envie soit de lui faire l'amour, soit de la défigurer.
Soit de la défigurer. Il n'y a, y a pas d'autre solution possible. La destruction ou la communion la plus totale, mais rien entre.
Alors l'héroïne évolue dans ce milieu, on peut le dire, un peu sordide parfois, en tout cas violent, et elle rencontre un écrivain plus âgé qu'elle, qui s'appelle Noé, dont je crois qu'il a 46 ans, elle a 18 ans, donc 30 ans d'écart. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est quelque part un peu sauvée par l'écriture, même si ce personnage va se révéler plus trouble ?
La narratrice ?
Oui.
Oui, mais la narratrice, elle a aucun... Elle n'a pas grand-chose pour elle dans le roman. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas qui... On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas... ce qu'elle ressent vraiment. Par contre, elle a sa langue qui lui est propre. Sa langue frondeuse, injurière, mais sa langue qui la caractérise et qui la définit. Et je pense qu'elle est totalement sauvée par la langue et par la littérature, parce que elle va donc côtoyer cet homme qui est pareil une caricature d'un écrivain d'une cinquantaine d'années fasciné par Bataille et par Gaspard Noé. Et en fait, elle va être plus intéressée par la bibliothèque de Noé que par Noé en tant que tel. Elle va se mettre à fouiner dans sa bibliothèque et à tomber sur des rayons de littérature qui l'intéressent, et notamment sur cette écrivaine que j'adore et à laquelle je rends hommage, qui est Mireille Havé. Écrivaine lesbienne du début de siècle, qui n'est pas très connue et qui est d'un talent, d'une grâce complètement dingue. Hein. C'est une figure qui s'est consommée à 30 ans dans la drogue et dans le sexe, et qui est morte, oubliée, comme un chien.
Qui a laissé un journal.
Qui a laissé un journal qui est publié aux excellentes éditions Claire Polan. Et un journal dans lequel elle raconte sa vie. Et la vie de Mireille Havé, c'était quelque chose.
Finalement, de Marseille à Paris, hein, c'est moins une guerre des genres qu'on assiste qu'à une lutte des classes. Parce que, vous le dites, c'est le bus 49 à Marseille, comme la ligne 2 à Paris, emmène des lieux d'argent jusqu'au crack.
Ouais,
c'est pareil, en fait, il n'y a pas de différence.
Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, mis à part qu'à Marseille, il y a quelque chose de peut-être plus honnête dans la violence et dans la manière dont les différentes classes cohabitent. À Paris, la narratrice en fait l'expérience en arrivant au boulevard de la Villette, où elle regarde la prostitution chinoise avec ses grands yeux de potiche, de potiche godiche qui regarde ça sans rien y connaître, mais elle trouve ça très très froid, très serré, et elle connaissait la prostitution marseillaise, mais c'est une prostitution qui se déploie, qui se déploie et qui est infiniment plus loquace, on va dire, qui parle.
Oui, c'est moins sournois, c'est moins louvoyant, c'est moins dissimulé. Et la narratrice n'épargne pas donc le milieu littéraire parisien,
non.
Qui finalement reproduit la domination masculine tout en prétendant la dénoncer.
Oui.
Donc l'héroïne assiste à une lecture Et elle voit effectivement, c'est un peu toujours les mêmes mécanismes, des hommes plutôt âgés, avec des femmes très jeunes, et où on est sans cesse dans l'évaluation, dans l'estimation, et dans la consommation finalement de valeur.
Oui.
Donc, donc ce milieu littéraire parisien n'est pas épargné, et vous ne l'épargnez pas en tant qu'écrivain.
Non, il n'est pas du tout épargné. Et c'est toujours cette, cette énorme brutalité, mais qui a avec elle des armes beaucoup plus puissantes, le langage, la tenue, les codes sociaux. C'est pour ça qu'à Marseille, aussi brutale puisse être Marseille, il y a quelque chose d'infiniment plus sincère, de plus évident, et c'est ce que la narratrice raconte. Par exemple, à un moment, elle se balade dans la rue, elle raconte qu'un mec lui dit « Grosse pute, si t'étais pas moche, je te défoncerais la chatte ». Et bah, cette phrase, aussi brutale soit-elle, elle a l'avantage d'être claire. Elle n'entendra pas ça dans une cérémonie littéraire parisienne, mais c'est pourtant la même chose qui lui est répétée.
Mmh. Alors, on a dit peu de figures d'hommes dans ce roman, mais il y en a une qui émerge et qui reste, en tout cas. C'est la figure du prêtre. Il y a un prêtre qui est là.
Oui.
Et... vous citez l'homme véritable, celui qui ne bande pas et qui te prend dans ses bras.
Ouais, le prêtre, le doyen du centre-ville de Marseille, le père Michel-Marie Zorkin, qui est une figure emblématique à Marseille, qui s'est fait complètement évincer, virer du jour au lendemain, qui était le prêtre de l'église des Réformés, cette grande église en haut de la Canebière.
Saint-Vincent-de-Paul.
Saint-Vincent-de-Paul, oui, tout à fait. Ouais.
Donc c'est étrange, hein. Donc celui qui prend dans les bras, qui ne bande pas, le curé, le prêtre. Et la mère, en fait, le personnage principal, découvre que sa mère avait une foi secrète. Donc elle est juive de confession, et elle se convertit elle-même à la religion catholique. Elle porte un médaillon de la Vierge, et elle emmène sa fille à la messe quand même, mais elle n'en parle jamais, elle n'en parle pas. Et ça dure 10 ans.
Ça dure 10 ans. 10 ans de foi.
Voilà.
10 ans de foi silencieuse. Elle n'en parle pas, mais elle lui montre qu'elle est croyante en l'emmenant dans cette énorme messe de l'église Saint-Vincent-de-Paul qui mélange tout le monde. Et ça, c'est assez impressionnant à Marseille. C'est que la messe du centre le dimanche, on y voit autant les putes de la rue de Curiol que la bourgeoisie du 8e. C'est une espèce d'énorme bordel coloré.
Donc, on l'a dit, pour commencer, on commence à l'émission, ça ne servait à rien d'essayer de définir si c'était de l'autofiction, du roman, du récit, tout ça. Par contre, il y a quand même une question qui se pose, puisque quand même le matériel de votre écriture, ça semble être votre vie, votre expérience personnelle. Donc, où vous placez la frontière entre l'auteur, la narratrice et le personnage principal. Comment ça se passe? Où sont les garde-fous?
Où sont les garde-fous? Je pense que tout se mélange et les trois serpentent les uns avec les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du tricotage, évidemment, avec le réel et avec ce qu'on observe, ce qu'on connaît des gens autour de soi ou pas. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez kleptomane, donc aussi de ça, j'ai volé beaucoup de personnages, peut-être, ou d'idées reçues, ou de... J'aime bien l'idée de coller, en fait. J'aime bien une espèce d'énorme collage bizarre. Enfin, je fous des paroles de rap... du Mireille Avé qui n'a absolument rien à voir avec Jules.
Du Jean Anouilh.
Oui, c'est un micmac. C'est un micmac avec ce que j'ai vécu. Bon, je suis pas très vieille, donc je prétendrai pas avoir vécu beaucoup, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai aimé lire, ce que j'ai observé, ce que j'ai inventé.
Ça, j'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à confondre la vie et la littérature, l'imaginaire et le réel, à les fondre tous les deux dans le symbolique? Est-ce qu'il n'y a pas un danger?
Ah si, bien sûr, il y a un danger. Il y a un danger, après, j'épouse ce danger. Il y a un danger de désordre général, à force de faire ça, c'est vrai qu'on peut devenir complètement taré, mais pourquoi pas, après tout, la littérature.
C'est le risque de l'autofiction, en fait, c'est-à-dire qu'on parle de soi, ça a l'air narcissique, facile, complaisant, ce à quoi tout le monde pourrait aspirer quand on écrit un journal, par exemple. Et en fait, c'est peut-être l'exercice de style le plus dangereux, le plus risqué.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est moralement risqué aussi, parce que je me faisais la dernière fois cette réflexion, je me disais que c'était quand même une posture assez dégoûtante que d'écrire sur ce qu'on connaît et sur les gens qu'on connaît. On est une espèce d'insecte, en fait, quand on écrit. On est tout le temps à la recherche de sang, hein, de... On récolte des choses autour de soi qui t'a créé le chaos.
Mais oui, puis il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se retrouvent dans votre roman.
Bien sûr, oui.
Et ils peuvent être blessés, flattés parfois, blessés souvent, voire meurtris, fâchés à mort, enfin, on connaît tout ça. Est-ce que vous avez des affinités? On a dû beaucoup vous en parler, je pense, quand vous avez été invité à diverses radios et sur les plateaux de télé. On vous a parlé de Christine Angot et de Virginie Despentes.
Pas vraiment d'Angot, non.
Ok, d'accord. Est-ce que ça vous flatte? Est-ce que ça vous gêne? Ça vous embête? Ça vous embarrasse? Vous assumez?
Non. Bah, je suis très... Enfin, je suis forcément flattée parce que Despentes, j'aime beaucoup Despentes. Après, j'ai l'impression qu'on dit souvent ça quand on voit un nouveau visage arriver qui parle de sexe de manière un peu crue. On dit, on crie Despentes, nouvelle Despentes. C'est un peu agaçant, je trouve. Non, moi, ce que j'aime, là où je me retrouve dans ce que fait Despentes, c'est que c'est de l'écriture trash, crue, dure, ce qu'on veut, mais ça reste assez tendre, ça reste généreux. Les personnages ne sont pas jugés. En fait, tout le monde s'en prend plein la gueule, mais personne ne s'en prend vraiment plein la gueule. Ça me plaît, ça m'intéresse.
Hervé Guibert aussi, c'est quelqu'un que vous a touché?
Moi, je suis en train de lire Foot Vincent, mais c'est quelqu'un qui me touche infiniment. J'adore Hervé Guibert. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie est un des romans qui m'a le plus ému. Ouais, c'est complètement fou, son écriture. Et ça me parle, ouais. Ça me parle, mais c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus direct aussi. C'est moins... Il y a moins de couleurs, il y a moins de bagou, ça va plus vite.
C'est des auteurs, ceux que je viens de citer, là, que ce soit Guibert, Despentes ou Angot, sont des auteurs qui revendiquent le fait qu'écrire, c'est une question de vie et de mort. Enfin, c'est très grave, c'est très sérieux finalement. C'est pas anodin.
Oui.
Ce danger-là, vous le sentez quand vous écrivez?
Ah ouais, je le sens. Je le sens profondément et ça me fait penser à ce que dit Fritz Zorn dans Mars. C'est la dernière phrase de son roman qui est un roman sur un homme qui se fait bousiller par sa famille bourgeoise et qui en meurt d'un cancer, parce qu'en fait il meurt d'un cancer, et il dit que le cancer c'est sa famille, c'est son éducation, et ça finit par je me déclare en état de guerre totale. Et il y a un peu de ça, c'est un état de guerre, c'est sûr, avec soi et avec les autres.
Le personnage perd sa mère à l'âge de 13 ans.
Ouais.
Donc elle se retrouve orpheline. Et est-ce que l'écrivain quelque part aussi, ou l'écrivaine, n'est pas nécessairement orphelin? C'est-à-dire que dans l'acte d'écriture, à un moment, il doit totalement s'arracher à son milieu, voire le trahir. Est-ce que la trahison, vous sentez que ça fait partie du devoir de l'écriture?
Oui. C'est un peu triste de dire ça, mais la trahison, la déception, la honte sont des choses qui font partie de l'écriture. Surtout la honte, je ressens beaucoup ça. Je pense qu'il faut écrire, mais toujours dans une étrange posture, parce qu'on doit à la fois rester collé à d'où on vient, à ce qu'on est, pour pouvoir en parler de la manière la plus juste possible. Et en même temps, on doit s'en extraire, donc ça crée des personnages... souvent complexés par leur classe sociale, par ce qu'ils sont, qui essayent de s'en détacher, mais qui ne s'en détachent jamais, et qui sont... Ouais, bon, on parlait de l'anomie tout à l'heure, qui sont des figures d'anomie, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils sont et à quoi ils appartiennent.
À un moment, le personnage Noé, donc cet écrivain qui a une relation avec le personnage principal, lui fait un peu une leçon de littérature, hein, lui explique en quoi ça correspond, en tout cas pour lui, la littérature.
Ouais.
Et il dit que ça rachète tout.
Ouais.
Pensez que la littérature, ça sauve vraiment?
Est-ce que ça sauve vraiment? Ça sauve et ça corrompt aussi, je pense. C'est une espèce d'étrange mix. Je pense que ça peut sauver beaucoup de personnes, oui. Je pense que ça peut sauver et que ça peut faire gagner du temps. Moi, je vois ça comme une espèce de course sur le temps. Si on peut s'en tirer avec la littérature, on peut aussi se vautrer. Hein. C'est pas aussi simple, mais...
Donc c'est ambivalent, c'est ambigu.
C'est ambivalent, oui. Moi, je rattache ça très fortement à la foi. Hein. Je pense que c'est une forme de croyance, de croyance en le fait qu'on sait qu'on peut se vautrer. C'est ce que dit la narratrice. Elle dit que écrire, enfin, c'est ce que Noé lui dit, mais c'est ce qu'elle pense aussi. Écrire, c'est traverser au mauvais moment. C'est toujours y aller quand on doit pas vraiment y aller. Et bon, soit on se sauve, soit on se brûle, mais on y va, quoi. Quelque chose de l'ordre du geste. Revenir à la peinture aussi.
Donc la trahison, la compromission, le risque, la vie, la mort, bon, c'est pas simple d'écrire, ça engage beaucoup. Un dernier mot sur la réception de cet ouvrage, qui a été plutôt excellente. Vous avez eu énormément de presse, beaucoup d'invitations en radio, en télé. Vous avez surtout réussi à réunir des gens très opposés.
Oui, j'en suis heureuse.
Voilà. Donc j'imagine que c'est une joie
ouais.
Que le bouquin soit si bien accueilli. Mm. Ça vous a... Alors c'est vraiment une question idiote. Ça vous a surpris ou pas, cette réception?
Ah, bien sûr, ça m'a énormément étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis surtout, c'est les accueils vraiment des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, qui trouvent leur propre version d'Encarne, qui voient un combat... Donc c'est assez étonnant, c'est aussi parfois très drôle, hein, parce qu'on m'attribue des pensées ou des idées que j'ai pas forcément.
Oui, il y a des malentendus. Hein.
Il y a des gros malentendus, mais après tout,
ouais,
c'est ça aussi.
C'est vrai.
C'est ça, c'est lâcher son texte dans le cirque, quoi. Et puis voilà, donc non, mais j'ai été très très étonnée de cette réception, j'en suis heureuse. Mais je suis contente qu'il serpente un peu partout, parce que j'avais pas envie qu'il se retrouve cloisonné quelque part.
C'est-à-dire chez Pauvert, un écrit subversif.
Je suis contente qu'il soit chez Pauvert. Hein. Oui. Évidemment, je me sens en adéquation avec l'esprit Pauvert, mais je suis heureuse qu'il puisse un peu voyager. Ouais.
Vous avez déjà une idée pour le prochain roman ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Bon. On en parle ou on n'en parle pas?
On peut en parler.
Avec plaisir.
On peut en parler, ouais. C'est un roman qui sera... beaucoup plus froid, beaucoup plus gelé, qui sera peut-être moins attrayant, moins tape à l'œil, mais moins jaune, parce que la couverture est très très jaune. Mais non, c'est un roman qui se passe en une nuit sur une femme qui perd complètement pied pendant une nuit et qui s'offre à la nuit de manière assez bizarre.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Esther, d'être venue nous parler de votre roman Carne, d'édition Pauvert. Pour finir, Pauvert, ça appartient à Fayard. Fayard, ça a été racheté par Bolloré,
ouais.
Qui édite Bardella. Mm. Ça s'est passé avant que vous signiez votre contrat de...
Ça s'est passé avant, voilà. Ouais. Ça s'est passé avant, ça a été très compliqué. Hein. Je me suis demandé comment j'allais faire ça ici. Et puis l'idée d'être chez Pauvert au sein de Fayard m'a rappelé que c'était important d'être pirate dans l'espèce de forteresse et qu'il fallait rester, en fait. Que si on se barrait, comme plein de monde qui sont partis, hein, et je respecte tout à fait ça, mais je pense qu'il est important de rester dans la forteresse avec sa propre Kalachnikov, pour parler de chez moi.
Là, les éditeurs passent, les écrivains restent. Enfin,
ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Esther Teilhard, pour votre roman Carne chez Édition Pauvert. Merci beaucoup, Yves Tenrey, de nous avoir reçus dans votre émission La vie est un roman.
Merci et à bientôt.
À très bientôt.
Merci, au revoir.